Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo après une semaine dernière consacrée à un live avec vous pour le démarrage de la saison. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont passés pendant le live, on essaiera peut-être d'en faire d'autres en améliorant l'aspect technique. C'est un souhait plus qu'une promesse. Et d'ailleurs, avant de vous parler du sujet du jour et de présenter mes deux acolytes de cette semaine, pour ceux qui l'auraient raté, sur Twitter, on vous a mis le lien du sondage annuel de Dunk Hebdo où on vous demande votre avis sur le podcast, donc pour savoir ce que vous aimeriez voir, sur quel point on doit travailler selon vous, aussi ce que vous aimez, hein, on prend les critiques positives avec plaisir. Et le lien est à retrouver sur Twitter, on vous le mettra aussi en description du podcast et sur YouTube, donc merci d'avance à ceux qui y répondront. Mais ça, c'est pour le point Dunk Hebdo. Passons au sujet principal, celui qui nous intéresse tous. Parlons NBA. Aujourd'hui, on va se poser une question assez simple. Au bout de 6-8 matchs de saison régulière, est-ce qu'on peut commencer à tirer des conclusions ? Question plutôt vaste. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec nos deux rookies, mais déjà très productifs pour ce début d'année, pour démarrer la saison de podcast. Donc, tout d'abord, celui qui ne cache pas sa satisfaction à voir les critiques autour du projet tanking, et je mets des guillemets pour ne pas qu'il démarre au quart de tour de son équipe, c'est évidemment le supporter du Thunder, c'est Constant. Comment ça va, Constant ?
Ça va, bah, back to back là, sur Dunk Hebdo, là, entre le live et celui-là. Ouais, là, je suis content, tu vois, commence à y avoir un petit peu de reconnaissance pour chez Gideus Alexander, là, ça nous parle moins de tanking, là, franchement, t'es fan du Thunder, tu te promènes déjà un peu plus sereinement la nuit en regardant les matchs.
Ah, j'ai mis une petite pièce dans la machine, c'est parti très très vite. Pour l'autre, celui qui nous reste avec nous, le début de saison, il est un peu moins reluisant qu'espéré, on risque d'y revenir, celui porteur des Sixers chez Dunk Hebdo, c'est Amine. Comment ça va, Amine ? Pas trop inquiet ?
Ça va, on va essayer de pas sombrer dans la dépression avec ce qu'on voit tous les soirs avec les Sixers, mais bon, aujourd'hui on va plutôt parler de la future finale Blazers-Bucks, c'est ça, normalement.
Blazers-Cavs même.
Oui, Cavs, oui.
Ouais, c'est les Bucks qui sont encore à 6-0 hein, pour le coup, mais on verra bien en tout cas. Effectivement, on va en parler de cette finalité NBA, cette échelle de confiance, on va dire, ou d'inquiétude d'ailleurs en début de saison. Juste après, on va faire ça juste après le rappel protocolaire. Vous pouvez toujours retrouver Dunk Hebdo sur vos applis de podcast préférés, sur YouTube également. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous retrouver, donc merci beaucoup à vous. Et vous pouvez également venir échanger avec nous sur Twitter. Je crois que je n'ai rien oublié, donc allons-y, c'est parti pour ce nouvel épisode du podcast NBA Dunk Hebdo sur ce début de saison NBA 2022-2023. Alors messieurs, nous en sommes encore au tout début de la saison régulière NBA, entre 6 et 8 matchs joués par équipe, donc à l'heure où on enregistre. Évidemment, on a tous déjà envie de tirer de grandes conclusions, positives ou négatives, sur tout ce qu'on voit. Mais avant d'en venir justement à cette saison dans le détail, je vous propose qu'on se penche un peu sur la fiabilité des débuts de saison, sur la finalité de la course au titre en NBA. Et pour ça, je vais commencer par donner la parole à Amine avec... Allez, des questions directes. Est-ce que c'est vraiment pertinent de tirer des conclusions si tôt en NBA ? Et selon quel facteur, à partir de quel moment ça commence à l'être selon toi ?
Alors, la réponse est assez simple, c'est non. 6-8 matchs, c'est un échantillon beaucoup trop petit. Néanmoins, on peut commencer à avoir certaines conclusions en fonction du projet des équipes en place et de ce qu'on a déjà vu, de l'ambiance générale. Il y a beaucoup de choses finalement qui rentrent en considération. Mais si on regarde dans le passé récent, ne serait-ce que l'année dernière, après 10 matchs, on a effectivement des Warriors en 9 victoires, 1 défaite, et qui font une grande saison, qui font 53-29 au final. Et bon, c'est pas non plus la saison qui correspondait au 9-1, mais c'est une belle saison. Mais dans le même temps, tu avais au bout de 10 matchs, les Wizards qui faisaient un 7-3 et qui finissent en 35-47. Donc, pour moi, rien que ces deux choses montrent que, même après 10 matchs, là, on en est à 6-8, même après 10 matchs, on n'a pas un échantillon assez important pour être sûr de ce qu'on va voir par la suite. D'ailleurs, il y avait un article de The Ringer l'année dernière qui disait qu'en règle générale, les over-under sont de Vegas sont très fiables et sont respectés en grande majorité. Et généralement, si 10 matchs ne suffisent pas, on considère qu'aux alentours de 20-25 matchs, on peut tirer des conclusions qui commencent déjà à être beaucoup plus intéressantes.
Constant, même chose, j'imagine. Tu l'as vu comme nous, hein, on va être d'accord que 6-8 matchs, c'est un peu tôt, mais il y a quand même, voilà, comme le dit Damien, il y a différents facteurs au bout de 20-25 matchs pour Vegas. Il y en a d'autres, je crois que c'est John Olinger qui lui disait qu'avec le net rating, peut-être qu'au bout de 15-20 matchs, ça commence déjà à se préciser, avec évidemment toujours des exceptions, on l'a dit. Bon, est-ce qu'il y a quand même, voilà, comme le disait aussi Amine, quelques tendances comme ça qui peuvent nous aiguiller? Est-ce qu'on va pouvoir commencer à discuter quand même?
Franchement, je vais faire une réponse de Normand. Je vais dire ça dépend des cas de figure. pour moi, le premier moment où tu peux te poser et tu peux dire « Ok, où on en est ?», c'est à Thanksgiving, qui est un peu l'espèce de marqueur temporel, un peu symbolique de dire « Bon, où est-ce qu'on en est ?» Tu dois être à peu près à 15-20 matchs au moment de Thanksgiving, je pense, pas loin. Ça dépend des cas de figure en fait. Pour citer une stat toute bête, pour ce qui est des contenders, sur les 10 dernières années, de toutes les équipes qui sont allées en finale NBA, il n'y en avait que deux qui au bout de 10 matchs avaient un bilan négatif. Les Cavs en 2014, année du retour de LeBron, et les Celtics de l'an dernier qui sont quand même une exception notable pour le turnaround magnifique de leur saison qu'ils ont fait. Les seuls points pour moi sur lesquels tu peux donner des espèces de conclusions au bout de 6-8 matchs, c'est style de jeu et peut-être rotation. Pas forcément le niveau de compétitivité, mais de savoir telle équipe va jouer avec telle pace, telle équipe va employer telle rotation sur son poste. Alors ça peut évoluer au fur et à mesure de la saison, mais je trouve que au bout de 10 matchs, pour la plupart des équipes NBA, tu peux quand même avoir une espèce de point de vue global sur comment va jouer cette équipe, quelle est l'approche de cette équipe, que ce soit en attaque ou en défense. Et au niveau des rotations, et voire même au niveau de la distribution des tirs, je pense que ouais, c'est là où tu peux faire vraiment un premier point. Par contre, pour tout ce qui est projection pour potentiellement des séries de playoffs ou potentiellement des classements de saison régulière, il faut attendre bien plus parce qu'il peut y avoir aussi des circonstances atténuantes, notamment un calendrier qui peut être plus compliqué pour certains que pour d'autres. Quand je dis plus compliqué pour certains que pour d'autres, je ne pense pas du tout au calendrier très clément qui a été accordé aux Wolves. Mais voilà, c'est au bout, pour moi, ouais, 6-8 matchs, c'est bien évidemment trop tôt. À Thanksgiving, tu peux commencer à te dire, ouais, où est-ce qu'on en est vraiment, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec vous, je ne vais pas tout paraphraser, juste rajouter ce que vous avez glissé un peu en filigrane. C'est vrai qu'il y a aussi, au fur et à mesure de l'avancée de la saison, au-delà donc, de l'aspect basket, des différents points statistiques sur lesquels on peut commencer à regarder également les minutes, les rotations, comme tu disais, Constant. Il y a aussi l'évolution en début de saison, enfin, en tout cas, à la mi-saison à partir de Thanksgiving. Des différents projets entre les projets de base entre guillemets en pré-saison, les équipes vers quoi elles s'orientent, et puis au fur et à mesure voir si on est plutôt sur un scénario optimiste ou pessimiste. Est-ce qu'on va avoir aussi des roster moves, parce que c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable, mais pour une équipe dont on va parler, par exemple le Jazz, il est quand même assez peu probable de l'avoir exactement dans le même état une fois passé la trade deadline. Et puis c'est sans parler évidemment hors terrain, mais il y a aussi le fait des blessures. Je pense qu'on peut l'évoquer rapidement avant de parler des équipes. Je sais que Constant, il est très attentif. On en avait parlé pendant le DH20. Là, par exemple, c'est l'exemple parfait du côté des Clippers. On a appris que Kawhi allait une nouvelle fois devoir se reposer, se soigner. Bon, c'est toujours, voilà, un fait. Là, celui-là, pour le coup, ça peut être un fait de début de saison qui est un marqueur assez pessimiste, on va dire, pour les Clippers.
Ouais, ça, c'est un marqueur assez pessimiste pour les Clippers, d'autant plus que ça ne colle pas vraiment avec ce qui a été dit et ce qui a été un peu teasé durant la pré-saison. Ça, c'est toujours les grandes hypes de l'off-season où tu as des tweets où les gens disent « Regardez les mollets de Kawhi, incroyable !» pour finalement jouer deux matchs en sortie de banc et devoir être out pour les six prochains, sans même vouloir forcément trasher les Clippers. J'en avais parlé durant le DH20, donc c'est pas pour me jeter des fleurs, mais la situation de Kawhi, elle est réellement inquiétante. Je parle même pas, tu vois, quelqu'un comme Jamal Murray fait pas un début de saison exceptionnel du côté de Denver, mais au moins il joue, il commence petit à petit à retrouver son rythme. Là, Kawhi, il est absent et c'est vraiment, il a pas joué 35 minutes, quoi. C'est que les Clippers, sur les deux premiers matchs de la saison, ont été très précautionneux envers lui et ça ne fonctionne toujours pas. Donc, après, Kawhi est réputé pour son load management, déjà à l'époque de Toronto. Alors, est-ce que c'est vraiment le point ultime du load management qui est atteint avec lui? Ou est-ce qu'il y a une réelle inquiétude du côté des Clippers à ce qu'ils puissent rechuter? Je ne sais pas, mais toujours est-il que, ouais, si, enfin, tu regardes le début de saison des Clippers, si Kawhi était à son niveau et si Kawhi avait pu jouer les minutes qu'il était censé jouer, le début de saison des Clippers est radicalement différent de celui qui a été fait pour l'instant. Et même si tu te projettes, si Kawhi venait à manquer plus de matchs ou s'il devait mettre plus de temps à se remettre, bah, t'as potentiellement des ramifications sur le classement en fin de saison qui peuvent grandement jouer pour les Clippers.
Avant d'effectuer la transition vers les autres équipes, de parler plus terrain, enfin en tout cas plus de joueurs qui sont sur le terrain. Amine, est-ce que tu as un mot sur Kawhi, l'effet sur ces Clippers, toi qui étais plutôt assez haut, hein, il me semble, ouais, sur carrément. Les Clippers avant la saison.
Carrément, mais après tout ce que vient de dire Constant est très juste en fait. C'est en fait quand on était très haut sur les Clippers, on partait du principe tout simplement que les choses se passaient bien et que ça revenait bien, etc. Maintenant, c'est des choses qu'on ne peut pas deviner et effectivement, il y a de quoi être inquiet sur ce début de saison avec Kawhi. J'ai pas grand-chose de plus à rajouter. C'est un autre sujet, mais j'ai l'impression que si ça marche pas cette année, ces Clippers-là, ils n'existeront plus l'année prochaine. Hein. Je pense que c'est la dernière.
Ah, moi, c'est un sujet. Plaisir, hein. C'est des pics de draft à récupérer, moi, mais...
Non. C'est le supporter du Thunder qui parle, mais effectivement c'est un sujet qu'on discutera peut-être pendant cette saison ou à la fin de la saison les Clippers. Mais voilà, c'était la petite parenthèse blessure parce que c'était quand même une actualité et ça méritait qu'on l'évoque. Je vous propose qu'on passe à ce début de saison 2022-2023. Donc on l'a bien dit, on va pas tirer de conclusion définitive sur toutes les équipes, mais il y a certaines tendances et puis il y a certains profils d'équipes qui sont plus ou moins intéressants. Donc on a décidé un peu de les séparer en différentes catégories aujourd'hui. On va pas pouvoir faire tout le monde, mais je vous propose de commencer, messieurs, donc avec les équipes qu'on a qualifiées de nouvelles, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont eu un changement, globalement un changement d'effectif, qui ont ramené un joueur qui change la manière de jouer. Et la principale, c'est évidemment donc les équipes qui ont animé cet été en NBA. La principale, ce sont les Wolves. Et Constant, bah, tiens, tu les avais évoqués, donc je vais te relancer une nouvelle fois, tu m'en voudras pas, Amine. Les Wolves, donc, qui ont eu un début de calendrier en donc la difficulté, le fameux strength of schedule pour ceux qui voudraient aller voir, donc la difficulté du calendrier, donc qui est censé être plutôt simple, mais qui sont à 4-3, donc rien de bien reluisant. Qu'est-ce que tu penses de l'intégration de Rudy Gobert du côté des Wolves, Constant?
Ah bah c'est pas facile, hein, l'intégration de Rudy Gobert, hein. C'est globalement, je sais plus qui c'est qu'on avait parlé dans le précédent live, je crois que c'est Ben
qui a parlé de diplomatie.
Ouais, mais ça y est, là il y a déjà plus de diplomatie en fait, et c'est difficile. Je suis partagé sur ces Wolves entre d'un côté de me dire c'est déjà foutu ce qu'ils veulent faire et de l'autre côté me dire faut leur laisser du temps. Parce que en fait, ma principale inquiétude que j'ai concernant ces Wolves, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait de réelle relation entre Rudy Gobert et Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns. En fait, j'ai vraiment l'impression que, alors que pourtant c'était un des souhaits de Kat durant l'off-season, c'est même principalement pour ça que Walker Kessler avait été drafté à l'époque, c'est que Kat voulait évoluer au poste 4 justement. Et là tu lui ramènes le protecteur de cercle le plus élite de la NBA, un pur poste 5, et t'as l'impression que Karl-Anthony Towns en fait il s'épanouit pas pleinement dans ce nouveau rôle. Anthony Edwards, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que, enfin, il a des déclats assez bizarres, Anthony Edwards, quand il dit « Moi, plus c'est petit, mieux je préfère jouer sur un terrain de basket. » Ça va complètement à contresens de ce qu'ont fait les Wolves durant l'intersaison, donc ça me fait me poser des interrogations. Et le niveau de D'Angelo Russell, on en avait parlé quand on avait dit les joueurs qui jouent gros, le niveau de D'Angelo Russell est vraiment pas bon sur ce début de saison. Il met pas un tir, même à la création, je trouve qu'il a régressé défensivement, c'est vraiment pas ouf. Et même si tu prends les stats du Jazz, alors après c'est que du début de saison, mais défensivement, ils sont pas forcément meilleurs que l'an dernier. Et offensivement, ils ont régressé. Ils sont 21e, je crois, à l'offensive rating ou quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est inquiétant, d'autant plus que t'en as parlé, Adrien. Leur début de saison a quand même été très clément. Tu joues deux fois les Spurs, tu joues deux fois au OKC. Malgré ça, tu te retrouves avec un bilan tout juste positif. J'attends de voir. Vraiment, j'attends de voir. Et je pense que, pour le coup, cette équipe des Wolves, dès Thanksgiving, t'auras une idée de à quoi va ressembler leur saison. vraiment. Parce que si ça enclenche pas à Thanksgiving, ce playoff mode qui est souvent vanté par des équipes en difficulté en saison régulière, du côté des Wolves, j'y crois absolument pas.
C'est vrai que la notion de déclic playoff a souvent été remise en cause. Amine, je t'ai vu beaucoup acquiescer. J'imagine que toi aussi, on en avait parlé entre nous. Constant l'a bien dit. C'est vrai que cette saison était. On avait l'impression que c'était la saison pour D'Angelo Russell de retrouver un partenaire de pick and roll et de mener cette attaque à bien pour que ça alterne correctement. Au début, on a senti des Wolves qui ont voulu forcer une entente donc diplomatique pour reciter Ben une nouvelle fois. Ça commence à s'effriter. Comment tu le vois, Amine ? Est-ce qu'on tire sur D'Angelo Russell ou pas tout de suite quand même ?
On peut commencer déjà à partir sur D'Angelo Russell, mais pas que. Moi, je trouve que j'ai quand même envie de laisser du temps. Disons que c'est normal, je trouve que c'est normal que faire rentrer Rudy Gobert avec son profil si atypique, ça prenne du temps à essayer de créer quelque chose. Maintenant, c'est sûr que si les Wolves shootent comme ils shootent en ce moment, pas seulement D'Angelo Russell, toute l'équipe, ça risque d'être très compliqué. Mais justement, il y a une variable d'ajustement. Kat tire pas très bien en ce moment. Et c'est quand même anormal que Kat tire aussi mal en ce moment. Maintenant, est-ce que peut-être c'est sa position au poste 4, les changements liés à la venue de Gobert, c'est possible aussi, donc peut-être que c'est pas une bonne chose. Mais il y a pas mal de variables d'ajustement qui font qu'ils pourraient être meilleurs. En défense, ils sont, comme l'a dit Constant, ils sont pas meilleurs que l'année dernière, mais en tout cas, ils sont bons. Ils sont 7e au defensive rating, ils sont sérieux, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça shoot tellement mal, ils ont une pace très rapide, ce qui est très étrange aussi avec Gobert. Donc, je pense qu'il y a des variables d'ajustement qui leur permettront peut-être d'être meilleurs. Maintenant, j'ai du mal à imaginer cette équipe aussi. Elle a l'air très ambitieuse. Je pense qu'ils n'ont pas le niveau pour être aussi ambitieux qu'ils souhaitent être.
Ouais, c'est possible. De toute façon, ça va se dessiner au fur et à mesure de la saison. Mais c'est vrai, pour abonder dans ton sens, Amine, de l'intégration de Rudy Gobert, on est sur un profil très particulier. Et c'est vrai que ça change l'équilibre à la fois offensif, totalement, comme tu l'as dit, Constant, avec le changement de rôle de Kat et ce qui était au centre de l'attaque des Wolves ces dernières années. Donc forcément, ça change beaucoup de choses. Et défensif, quand tu as un profil comme Rudy Gobert, sachant que de manière globale, intégrer un nouveau joueur, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Et puis la production, c'est un article je vais le citer, d'Achiel Nussbaum, donc pour FindSided, qui a analysé les joueurs transférés en 2018-2019. Donc c'est un article de 2020. Et qui disait que les minutes et le rôle d'un joueur nouvellement transféré dans une équipe se stabilisent au bout de 11-12 matchs et on commence à voir à peu près son niveau. Alors, il utilisait le game score de John Oettinger, mais en tout cas, un niveau de productivité qui ressemble à ce à quoi on peut s'attendre. Donc, c'est une moyenne pour des joueurs transférés. Pour un profil de type Rudy Gobert, qui est peut-être un des plus impactants, en tout cas sur la manière de jouer de ton équipe, forcément, ça prend un peu plus de temps. Donc, Je vous pose une petite question simple, on le fera sur la plupart des équipes en termes d'indice d'inquiétude pour les Wolves à ce niveau-là. Est-ce qu'on est vraiment inquiet de 1 à 5, 1 pas très inquiet, 5 très inquiet, Constant, les Wolves?
Moi, je mettrais un bon 3, parce qu'il y a un truc quand même qui me fait tiquer quand je regarde les Wolves, c'est qu'ils ont quand même une raquette constituée de Rudy Gobert et de Karl Anthony Towns. Ils sont 23e en pourcentage de rebond défensif et 20e en pourcentage de rebond total. C'est-à-dire que même avec une raquette gigantesque, ça se fait prendre des rebonds sur la tronche. Donc ça, je suis inquiet. Ça, franchement, je suis inquiet. Je suis un peu déçu. Enfin, moi, je suis pas très fan du joueur, mais je trouve que le début de saison d'Anthony Edwards, il a quand même pas mal de chances d'avoir un D'Angelo Russell pour servir un petit peu de gilet pare-balles, parce que je le trouve pas exceptionnel le début de saison d'Anthony Edwards. J'attends de voir face à des équipes playoffables, parce que je peux me dire, bon, ils ont joué les Spurs, ils ont joué au Kessit, et ils sont arrivés un peu en prenant de haut cette équipe et ils se font cueillir face à des gros challengers, ils vont peut-être se ramener un peu plus motivés. Mais entre le manque d'alchimie, je trouve, de leurs trois meilleurs joueurs, plus des stats inquiétantes au rebond et le tir, comme l'a dit Amine, ouais, je suis sur un 3, je suis pas complètement paniqué, mais je vais surveiller quand même d'un coin de l'œil ce que fait Minnesota.
Amine, une note pour toi aussi?
Je vais mettre 2,5, juste pour être un tout petit peu moins inquiet. En précisant aussi qu'il joue sans Kyle Anderson, qui est un ajout important. Et pour l'instant, il n'est pas là. Et ça peut faire beaucoup de bien. En plus, c'est typiquement le genre de joueur qui fait du lien entre les autres et qui t'apporte un peu plus aussi en défense. Donc, je pense que ça peut les aider ensuite à relever la tête. Donc, moi, je mettrais 2,5 sur l'échelle d'inquiétude.
Inquiétude modérée, nous allons dire, du côté des Wolves. Un petit peu d'inquiétude, mais modérée. Passons à une autre de ces nouvelles équipes, mais dans le cas inverse, puisque c'est plutôt un départ canon du côté des Cavs. 5 victoires, 1 défaite, l'intégration magnifiquement réussie de Donovan Mitchell. On est sur une équipe là qui, pour le coup, est en haut des ratings globaux. Hein, même en net rating, ils sont deuxièmes derrière les Suns. Donc, c'est vous dire comme ça fonctionne. Je pense qu'on va s'étaler un peu moins longtemps, mais Amine, cette fois-ci, je vais te lancer en premier. Les Cavs, c'est une vraie satisfaction. Ils sont efficaces offensivement, là où ils avaient peut-être un peu de mal, puisqu'ils ne dépendent plus uniquement de Garland, même si du coup, ils ont joué avec uniquement Donovan Mitchell à des moments qui a dû ressortir ses talents de spadassin, pour citer notre cher Alan. Et puis, défensivement, ils sont toujours aussi efficaces. Bref, ça se passe bien du côté des Cavs.
Oui, carrément. Et c'est mon tour d'avoir ma petite fierté, parce qu'on avait fait le petit épisode sur les Cavs au moment de la signature de Mitchell. Et on était plutôt très confiants sur les Cavs avec Ben et Tom. Et aussi, personnellement, on n'était que deux à avoir mis Donovan Mitchell dans notre DH20 avec Ben. Et j'en suis très content aussi. Pour moi, c'était évident que c'était un joueur DH20. Je m'attendais à ça. Et je suis très content, surtout en l'absence de Garland. Maintenant, il va y avoir un challenge quand il va revenir pour Bickerstaff, parce que ça sera différent à organiser. C'est plus simple d'avoir Mitchell comme ça en go-to guy et pas de partage et autour que des gars qui défendent le plomb. Donc ça marche vraiment très très bien. Ça changera quelque chose avec justement le backcourt très petit pour la défense et compagnie. Néanmoins, j'ai quand même confiance que ça continuera bien, parce que Donovan Mitchell est aussi un très bon joueur off-ball, en vérité. C'est pour ça que j'apprécie tant ce joueur, c'est qu'il est très très complet en attaque. Et je pense que avec une défense de fer comme ils ont actuellement, ils sont deuxième au defensive rating, je pense que les Cavs seront, en tout cas sont vraiment, comme je m'y attendais, candidats à l'avantage du terrain à l'Est.
Je te demande tout de suite le chiffre. En confiance, ça donne combien ?
4.
Une bonne confiance du côté d'Amine Constant, du coup. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces Cavs ?
Déjà, moi, je suis pas fan de Donovan Mitchell, mais vraiment pas. Donc,
premier affrontement.
En fait, pour moi, Donovan Mitchell, tu me poses la question sur l'indice de confiance pour les Cavs. En saison régulière, je suis à 4. En playoff, je suis à 1. Moi, j'ai des vrais problèmes avec Donovan Mitchell. Mais, peut-être à 2, parce que 1, je suis méchant. Mais, quand t'es Cleveland, l'an dernier, t'étais 20e en offensive rating. Cette année, t'es 4e. Meilleur pourcentage de réussite à 3 points de toute la ligue. C'est là où j'ai envie de dire qu'ils vont peut-être un peu déchanter. C'est le début de saison de Donovan Mitchell est vraiment somptueux pour le coup. Mais quand t'as Caris LeVert qui envoie des matchs à 41 points, j'ai envie de me dire, on se calme. Après, pour le coup, moi, j'ai mis Darius Garland dans mon DH20. Donc là, pour le coup, les Cavs, malgré tout, ont aussi un joueur du DH20 chez moi. Donc j'attends pas mal l'arrivée de Darius Garland. Mais le match, moi, qui m'a bluffé de ces Cavs, c'est face à Boston. Clairement, il n'y a pas de débat possible. C'est ce match face à Boston où je crois qu'ils se retrouvent derrière d'une dizaine de points à un moment dans le troisième quart. Ils font un comeback. Ils vont gagner en overtime. Et vraiment, là, je me suis dit, ils sont pas seulement talentueux, ils ont du caractère aussi. Et globalement, on parle beaucoup de Donovan Mitchell, on parle beaucoup de Caris LeVert, mais Evan Mobley va finir dans une autre défensive en étant sophomore s'il continue à ce rythme-là. Parce que défensivement, ce qu'apporte Evan Mobley, c'est exceptionnel. Alors, il met un peu de temps à bien être servi en attaque, c'est pas toujours le cas. Là, il commence à faire quelques bons matchs offensivement, mais défensivement, la raquette Evan Mobley, Jarrett Allen, elle est vraiment ultra solide. Et c'est ça, pour le coup, où je suis confiant sur eux, c'est que même si leur attaque venait à baisser, ils pourront toujours se focaliser et se replier sur leur défense qui restera élite, parce qu'elle l'était déjà l'an dernier. Donc très impatient du retour de Darius Garland et de voir comment les deux vont vraiment fonctionner, Donovan Mitchell et Darius Garland, en gardant un œil aussi sur l'espèce de débat qui commence à naître sur qui doit être titulaire au poste 3. Pour l'instant, c'est Caris LeVert, mais c'est peut-être susceptible de changer.
Surtout que Dwight a montré des belles choses, hein, sur les minutes qu'il a.
On a des partisans de Dean Wade, effectivement, chez Dunk Hebdo, mais ta conclusion est parfaite pour moi, Constance. C'est là où je voulais amener pour terminer sur les Cavs. Je pense que tu as bien résumé la question. En saison régulière, on est confiant. On voit que de toute façon, au talent, que ce soit Mitchell ou Garland, ça suffira avec cette défense élite pour être bien placé. La question est toujours la même. C'est leur cohabitation. Et est-ce qu'ils vont être capables de proposer une attaque assez variée et peut-être moins dépendante de leur réussite personnelle en création pour soi de ces deux joueurs-là, une fois arrivés en play-off, notamment pour des séries face aux Celtics que tu as bien cité, mais en niveau de caractère, et puis pour la saison régulière, effectivement, je pense qu'on est plutôt confiant pour eux. Mais on va enchaîner parce qu'on a encore un peu de monde à voir. Ça, c'est pour les, entre guillemets, nouvelles équipes, même s'il y en a d'autres, hein, qu'on pourrait citer. On en a parlé entre nous. Je pense que les supporters des Pelicans sont très heureux de retrouver Zion. Ça marche très, très bien. Du côté d'Atlanta, c'est pas si mal. Il y aura encore des questions à se poser, mais je pense qu'on reparlera d'Atlanta, puisque je sais que ça tient à cœur, notamment à Ben, à chaque fois de les regarder. Donc, on pourra en reparler dans les prochaines semaines. Parlons justement, tu les as cités, Constant, des Celtics, mais pas que, des favoris dès la pré-saison. Hein. On parle bien sûr des Bucks, des Suns, des Celtics qui sont cités et pour qui ça se passe très très bien pour le moment. Alors, notamment pour les Bucks qui sont encore invaincus à 6-0, mais on a aussi les Suns à 5-1, les Celtics qui ont eu un petit coup d'arrêt là, qui sont à 4-2, mais qui quand même ont proposé un basket plus que sérieux pour ce début de saison. Alors on va alors encore une fois pour Amine, comme ça après j'aurai équilibré les démarrages, puis après je pourrai alterner pour tout le monde. Bon, Amine, on les fait en un tas, Bucks, Celtics, Suns, ça se passe bien là où les attend. Peut-être les Celtics, il y avait un peu plus de questions, mais finalement, bon voilà, des favoris qui sont droits dans leurs bottes pour ces trois équipes.
Moi, j'avais encore plus de questions pour les Suns, vu ce qui s'est passé cet été. Et force est de constater. En fait, le fait d'avoir vite gagné, tout ça, je pense que c'est parfait pour eux. Ça va éteindre un peu tout ce qui s'est passé. Et
l'incendie de vestiaire.
C'est ça. Ils vont pouvoir se concentrer sur le basket. Et pour l'instant, on a parlé de Donovan Mitchell. Devin Booker, il fait un sacré début de saison aussi. Je crois que c'était dans une discussion qu'on avait en privé. On parlait des arrières et du podcast qui avait été fait sur les arrières récemment. C'est vrai que c'est peut-être d'ici quelques années, on va revenir à une ligue d'arrière si ça continue comme ça. En tout cas, Devin Booker, il fait un super début de saison. Chris Paul, il est load managé comme il faut pour l'instant. On le grille pas. C'est super bien bossé de la part des Suns et ça me surprend parce que moi, j'étais très inquiet pour eux. Les Celtics, je m'inquiétais moins. Disons qu'il y a eu le drama du coach et tout, mais on regarde l'effectif, on regarde comment ça tourne. Il y avait pas trop de doutes sur le fait que ça allait continuer à tourner aussi bien. Et les Bucks, encore moins de doutes. Hein, quand on a Giannis dans l'équipe, là, ils font sans Middleton. Brook Lopez qui a réatteint un niveau qu'il n'a pas atteint depuis très longtemps. Jrue Holiday qui est trop fort. Je sais même pas quoi dire sur les Bucks. Là, ils sont hallucinants, en fait.
Ouais, les Bucks qu'on risque de retrouver en fin de saison, c'est sûr. Toi, pour cette équipe aussi, Constant, sur lesquels tu avais plus de questions, est-ce que toi aussi tu es rassuré globalement par ces Suns, par exemple?
Non, bah moi les Suns, je trouvais de toute façon, enfin quand j'avais fait mes prévisions de classement, je les avais mis top 2 ou top 3 de la conférence Ouest. Je trouvais qu'on les avait enterrés trop vite. En fait, je vais même aller plus loin que ce qu'a dit Amine en disant je suis d'accord avec lui que le fait de gagner vite les a bien aidés. Je pense même que de retaper les Mavs sur le premier match de saison régulière a un peu colmaté la brèche en disant ok. Tu vois, c'est limite, ce match-là aurait déjà pu être un tournant dans leur saison. Et que si c'était fait taper de 25 points, ça aurait peut-être continué. Là, du coup, ils font le comeback dans le quatrième quart. Il y a le game winner de Damien Lee. Voilà. Bon,
quand t'as Damien Lee qui arrive.
Ouais, quand t'as Damien Lee qui met des game winners, il peut plus t'arriver grand-chose. Mais globalement, rassuré pour ces Suns, même si j'étais pas très inquiet. Les Celtics, j'ai quelques interrogations, notamment défensivement. On sait que les Celtics, c'est quand même une défense qui fait quasiment du switch à toutes les possessions. Et sur ce début de saison, c'est la deuxième équipe avec le pire point par possession en isolation, juste après les Lakers. Quand t'es une équipe qui switch tout le temps, être la deuxième pire défense sur les iso, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus de rassurant. Donc ouais, j'attends de voir. Ils sont globalement très satisfaisants. Mais tu vois, il y a le petit quoi contre Cleveland. Disons que quand on a fait le live la semaine dernière, j'étais plus élogieux sur les Celtics que sur la semaine qui vient de s'écouler là globalement. Mais on attend de voir. Jaylen Brown démarre moins fort que Jason Tatum, ça c'est une évidence. Mais voilà, il y a potentiellement le retour de Robert Williams qui peut faire du bien aussi. J'attends de voir, mais c'est globalement très 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 rassurant, je m'inquiète pas pour eux. Et les Bucks
voilà. Non, je mais pense que c'est bien résumé.
Les Bucks les Bucks ont cette capacité d'être un rouleau compresseur quand ils jouent des équipes quoi. Je pense que c'est le plus gros rouleau compresseur de la NBA depuis déjà quelques années, c'est que Giannis il progresse encore, j'ai l'impression qu'il est meilleur que l'an dernier quoi. Il commence à avoir un espèce de fade-away là, à mi-distance. Là. Je me dis, mais il n'avait pas ça là, l'an dernier, en fait. Et ouais, même Jordan Wara, ils lui font démarrer, ils lui donnent des minutes. Ils font starter Javon Carter et c'est loin d'être honteux. Donc, Brook Lopez m'hallucine. Moi, je maintiens toujours que si tu enlèves les pivots All-Stars, c'est lui le meilleur pivot de la NBA. C'est peut-être un peu trop s'avancer, mais j'ai vraiment du mal à voir qui, dans la conférence S, peut empêcher une finale de conf Celtics-Bucks, parce que ces deux équipes-là sont, pour moi, mes deux crans au-dessus de tout le reste de la conférence S.
La question principale qui tournait autour des Bucks, c'est que, hormis Giannis, qui évidemment est Giannis, les autres joueurs autour, les Brook Lopez avait cité, Jrue Holiday aussi pour Amine, c'est des joueurs qui vieillissent. Alors on se dit, pour une équipe qui est très physique aussi, qui est vraiment au combat, elle est dure à aller chercher, on pouvait se poser des questions. Est-ce que ça va tenir? Jrue Holiday joue encore beaucoup, hein, il a 35 minutes de moyenne. Est-ce que sur la durée, il va pas falloir un peu mettre... un peu de coup de frein, mais qu'il joue sans Middleton. Donc, une fois que tu auras Middleton, tu pourras probablement manager tes minutes plus facilement. Bon, effectivement, vous avez tout dit sur les Bucks, il n'y a pas grand-chose à rajouter, tout va bien. Je pense que l'indice de confiance est à 5 pour la saison régulière. Et puis, on verra bien pour la suite, mais ça doit être assez haut. Et puis, Celtics-Suns, ouais, voilà. Celtics, petit coup d'arrêt pour cette semaine. Tu as dit, Constant, il y a l'accident, on va l'appeler comme ça, à Cleveland, ce qui n'est pas forcément un accident. Je pense qu'il y a des choses à tirer, mais c'est peut-être aussi bien. C'est des équipes qui ont. Autant les Bucks peuvent faire un début de saison rouleau compresseur et ne pas se poser de questions et rester sérieux, autant peut-être que les Celtics ont besoin parfois de peut-être petites piqûres de rappel pour rester concentrés jusqu'au bout. Bref, en tout cas, ce sont trois équipes pour qui ça démarre très très fort. On va parler justement d'autres équipes attendues, elles aussi plutôt hautes, mais qui ont quelques retards à l'allumage, alors pas forcément les grands favoris comme les équipes qu'on vient de citer, mais je voulais mettre dans l'eau, il y a des Nuggets, des Mavs, du Heat, des Sixers. Du coup, bah tiens, on va se garder les Sixers sur le côté Amine. Constant, quelle équipe toi t'inquiète dans ce lot? Alors t'inquiète de manière relative peut-être, mais voilà, on a un Heat à 2-5 par exemple, ce qui est pas très très reluisant. Voilà, comment tu vois ces équipes là?
Il y a une équipe qui mérite d'être mentionnée quand même, c'est les Warriors.
Ils sont à 3-4.
Ouais, mais quand tu vois les 4 défaites. T'en as une à Détroit. Enfin, le back-to-back, défaite à Charlotte, défaite à Détroit.
C'est pas beau.
Il est violent. Défensivement, ils en foutent pas une. C'est assez catastrophique de voir les rotations défensives des Warriors. Il y a quand même, face aux Suns, ils font une bonne première mi-temps et à partir du moment où Klay Thompson se fait expulser, ils coulent complètement. Ils sortent complètement de leur match. Klay Thompson, le niveau de Klay Thompson, tu m'en parlais de l'inquiétude vis-à-vis de Kawhi. Le niveau de Klay Thompson sur ce début de saison, lui, il a quand même eu une demi-saison l'an dernier, plus une campagne de playoffs pour se remettre en jambe. Il n'y a pas l'excuse de retour à la compétition, quoi. C'est là, j'ai bien l'impression qu'il peut toujours s'améliorer, mais
on ne retrouvera pas Prime Klay Thompson, quoi, a priori.
Non, je crois pas. Mais voilà. Après, pour les autres équipes, les Mavs, c'est pour les Mavs, vous avez le moins d'inquiétude. Parce que c'est vraiment trois accidents dans le clutch, quoi. Enfin, voilà, je parle en connaissance de cause, la fin de match face à OKC. Il le joue 100 fois, ce match, avec ce cas de figure. 99 fois, il le gagne. C'est tombé sur la fois où ils n'allaient pas le gagner. En tant que fan des Sixers, Amine peut me parler d'Azaïa Joe ou pas, parce que finalement, il l'a peu vu jouer. Mais voilà, je m'inquiète pas pour eux. Ils sont même Luca, ce qui me fascine chez lui, c'est qu'il fait jamais deux mauvais matchs de suite. OK, ici, il est mauvais. Orlando, il leur met 44 points avec des pourcentages très élevés. C'est le Heat, moi, qui m'inquiète. 2-5. Des déclarations pas forcément très rationnelles de la part de Jimmy Butler en disant on va quand même gagner le titre, peu importe à ce qu'on soit à 2-5, machin. Moi, je m'inquiète de voir comment fonctionne ce Heat. La saison de Kyle Lowry est globalement très décevante. Tu sens qu'ils n'ont pas retrouvé... cette espèce d'étincelle défensive qu'ils avaient l'an dernier, la perte de PJ Tucker, quand bien même elle est pas très valuable du côté de Philly pour l'instant, elle est quand même, Elle fait du mal à suite. Ils essayent de faire jouer Duncan Robinson, mais c'est difficile. Max Strus, que moi j'adorais la saison dernière pour son impact défensif, score, mais défensivement, je le trouve quand même deux crans au-dessus de ce qu'il faisait l'an dernier. Donc ouais, le hit pour moi a tendance à m'inquiéter parce que je sais qu'ils peuvent se remettre d'aplomb, mais j'ai du mal à les voir arriver au niveau de ce qu'on disait tout à l'heure des Celtics et des Bucks, par exemple.
Ouais, pour une équipe qui a beaucoup joué, je pense, alors au mental, en tout cas au combat, on va dire, on la retrouve à chaque fois au combat où on retrouve un Jimmy Butler un peu différent en playoff. On en a beaucoup parlé pendant le DH20. C'est vrai que là, ils sont un peu plus en dilettante à l'image de Max Strus, comme tu disais. Donc, quand on commence à en attendre beaucoup de Kyle Lowry, j'entends les critiques sur Kyle Lowry. Je pense qu'il faut partager les critiques entre le joueur et les attentes qu'on met autour du joueur en 2022-2023. C'est-à-dire qu'on ne peut plus attendre de Kyle Lowry qui te fasse un 28 tous les soirs. Et à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Ils ont un problème ailleurs. Donc effectivement, c'est peut-être un peu plus inquiétant. Et voilà, à vouloir étendre la rotation, à vouloir faire jouer le contrat de Duncan Robinson, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir se poser cette question. C'est vrai qu'ils ont quelques soucis, mais après... Enfin, de mon côté, en tout cas, l'inquiétude n'est pas non plus très très grande. C'est des équipes qui, bon, démarrent pas très fort. Je pense que peut-être au bout de 15-20 matchs, on se remettra en question. Bon, il y a les Sixers aussi dans l'eau, Amine. Il y a eu deux trois perches lancées par Constant ici et là. Comment on vit ce début de saison du côté des Sixers? Allez, je vais être gentil en demi-teinte.
Oui, t'es gentil. T'es gentil parce que là, on vient de faire 3 victoires d'affilée, mais c'est un arbre qui cache la forêt, très clairement. Parce que j'ai pas vu un match qui m'a vraiment plu de tous les matchs que j'ai regardés des Sixers. Et c'est vraiment très dur. C'est-à-dire, on a eu au début, dans les défaites, un très bon James Harden qui commence quand même à baisser très rapidement de niveau. C'est un James Harden quand même il me plaît sur un petit truc. Ça a surpris beaucoup de monde. Il prend beaucoup de mid-range, mais je pense que c'est réfléchi en fait parce que on voit bien qu'il n'a plus la même capacité à aller au cercle autant de fois qu'il veut, et je pense qu'il cherche à travailler ce jeu en mid-range pour pouvoir s'adapter un peu plus. Néanmoins, on a vu qu'il a commencé à baisser un peu de niveau. Ensuite, il y a eu Embiid qui s'est réveillé un petit peu après un début de saison complètement catastrophique. Et puis ses blessures, donc c'est toujours pareil. Et puis Maxi qui sauve un peu ses derniers matchs. Mais à côté de ça, les role players qui viennent d'arriver, comme l'a dit Constant, PJ Tucker, pour l'instant, c'est bon, ça reste PJ Tucker, mais c'est pas le PJ Tucker, ne serait-ce que du hit de l'année dernière. Daniel House, j'attendais beaucoup de lui. Pour l'instant, au bout de quelques matchs, on était beaucoup à Philly qui souhaitait le retour de Matisse Thybulle, et c'est dire beaucoup, hein, de dire qu'on souhaitait le retour de Matisse Thybulle. Et puis le plus gros problème, il est sur le banc et il sera toujours sur le banc malgré l'espoir de beaucoup de supporters des Sixers. Je pense que pour qu'il soit plus sur le banc bientôt, il faut qu'après les fameux 20-25 matchs, on soit à 7-8 victoires en fait. Parce que les 8 millions par an jusqu'en 2025, ils vont pas être dégagés comme ça juste parce qu'on a raté un peu notre début de saison. Et je pense qu'on sera pas à 7-8 victoires après 20-25 matchs. Parce qu'on a un plancher beaucoup trop élevé, et du coup, je pense qu'on va vivre. Si tu me demandes mon inquiétude par rapport à être contender ou quoi que ce soit, je te la mets à 5 presque, parce qu'en fait, on va faire la même saison que les 3-4 dernières en fait. On va aller en demi-finale de conf max, et puis voilà. Et puis j'espère qu'on changera de coach l'année prochaine.
Voilà, je vais traduire pour ceux qui n'ont pas compris, vu que le nom n'a pas été cité, Amine fait référence à un certain Doc Rivers. Effectivement, on a beaucoup de critiques sur les rotations, je t'ai vu acquiescer Constant. Il y a cette fameuse arlésienne maintenant du poste de pivot avec, oui, tu as Joel Embiid, tu l'as cité, Amine qui part. Voilà. Ben oui, mais bon, quand tu as Joel Embiid qui parfois a besoin de se reposer, même si voilà, c'est moins important en termes de blessures que quand on a cité Kawhi, etc., tu sais que dans ton effectif, Embiid ne va pas pouvoir jouer 82 matchs en jouant 35 minutes. Et tu as Paul Reed qui ne voit même pas le terrain, donc voilà, il y a plusieurs questions. Constant, toi, les Sixers, comment tu appréhendes leur début de saison malgré le rayon de soleil Maxi, je sais qu'il te plaît.
Bien sûr, oui, mais je suis très fan de Maxi. Mais moi, ce qui me frappe quand on parle des Sixers, c'est qu'il y a un nom qui n'est jamais mentionné, alors que pourtant, si les Sixers tournent bien, il devrait être mentionné, et vu le salaire, il devrait être mentionné, c'est Tobias Harris. On ne parle jamais de Tobias Harris.
J'ai oublié d'en parler, mais j'aurais eu bien des choses à dire aussi dessus.
Ah, c'est ça qui me
Allez-y, choque. Messieurs. C'est qu'on on est là pour ça.
On ne parle jamais de Tobias Harris, et c'est pas bon signe quand on parle pas de Tobias Harris. C'est qu'il fait du Tobias Harris et qu'il met quelques tirs, mais il est globalement... Est-ce que c'est des tirs qui sont valuable ou qui sont même utiles? Je sais pas comment expliquer, mais les paniers de Tobias Harris, j'ai même pas souvenir d'action dans le quatrième quart où je vois un panier de Tobias Harris. Ça me vient pas en tête là comme ça. Donc après, je vois pas tous les matchs des Sixers, mais vraiment, j'ai l'impression que dès que t'arrives dans le quatrième quart, t'as Tobias Harris qui est quand même un bon joueur, quoi. Surtout aux Clippers, il était très fort, mais qui disparaît complètement. Alors que pourtant, le profil en attaque de Tobias Harris, tu peux l'utiliser de plein de manières différentes et qu'il n'est pas utilisé. Alors ça, ça peut être une question de coaching. Alors moi, Doc Rivers, ça fait longtemps que je considère que c'est une immense fraude. Mais après, même au, tu vois, tu Amine parlait de la question au niveau des rotations pour le pivot, mais même sur la rotation meneur backup arrière en fait. T'as Shaq Milton qui, il y a de ça quelques années, remplissait un petit peu ce rôle, qui a complètement disparu de la rotation. Pour laisser place à D'Anthony Melton, qui fait pas non plus un début de saison exceptionnel. Là encore, les arrivées de Philly sont pas très productives pour l'instant. Mention spéciale à Dan Hals et sa coupe de cheveux exceptionnelle. Encore une fois. Mais je m'en remets pas de sa coupe de cheveux. Mais non, mais... ce que je crains chez ces Sixers, c'est que Harden va louper des matchs, Embiid va louper des matchs, et tu vas avoir certains soirs où ça va être, allez Tyrese, porte-nous tout seul, allez, mets 40 points, vas-y, essaye, et débrouille-toi comme tu peux. C'est compliqué les Sixers, parce que, ouais, un peu comme Amine, je doute pas qu'in fine, ils auront l'avantage du terrain certainement au premier tour. Quand je vois le classement de la Conférence Est, je suis même prêt à dire qu'ils finiront devant les Cavs au classement, parce que sur la durée, ils... T'as quand même Joel Embiid et James Harden, donc tu vas gagner des matchs fatalement. Mais ouais, en playoff, tu vois, tu refais... l'an dernier, ils leur ont roulé dessus, mais tu me refais une opposition entre Toronto et Philadelphie cette année, avec ce que montre Toronto sur ce début de saison, pas autant rassuré que l'an dernier. Donc saison régulière, un petit 4 sur 5 dans l'indice de confiance. Mais par contre, ouais, quand on va arriver en avril... ça va être du Doc Rivers dans le texte.
Amine, je te redonne la parole rapidement sur Tobias Harris. J'imagine que tu as quelques mots à dire sur peut-être un joueur qui, comme l'a dit Constant, n'a pas la production au niveau de son contrat, en tout cas, ou du choix qui avait été fait à l'époque par rapport à un autre joueur qui est parti depuis et qu'on a évoqué au hit, un certain Jimmy Butler. C'est un bon joueur, Tobias Harris, mais pas. Enfin, il faudrait qu'il soit au niveau de son contrat, peut-être, pour faire le lien. Le lien, pardon.
Au niveau de son contrat, c'est pas possible, en fait. c'est pas un joueur qui mérite son contrat. Néanmoins, moi, j'aime pas trop parler en mal de Tobias Harris parce que ça a l'air d'être un type bien, ce qui est très rare, mais quand on voit un petit peu ce qui se passe autour de lui, ça a vraiment l'air d'être un type bien. C'est un bon joueur, comme l'a dit Constant, c'est un joueur qui ne mérite pas du tout son contrat, et je pense qu'il y a vraiment un délire de confiance aussi, pas mal, parce qu'il a des très bonnes périodes, il a vraiment des super périodes, ou même en défense, parce que c'est un joueur très sous-estimé en défense, notamment sur les playoffs de la saison dernière, où on n'est pas extraordinaire. Mais Tobias, il est très bon défensivement, notamment sur les ailiers. Et normalement, c'est un joueur qu'on surpaye, mais qui, s'il est dans son rôle tout le temps, il est quand même parfait pour l'effectif qu'on a actuellement. C'est-à-dire que t'as une rotation 3-4 avec PJ, par exemple, et t'es sûr que ça va défendre le plomb et ça va normalement mettre ses 3. Maintenant, quand il n'est pas en confiance, il ne met même pas ses 3, Tobias. Il fait un début de saison très, très difficile, lui aussi. Et du coup, c'est sûr que en fait, là, actuellement, tu as tous les role-players qui sont pas terribles. Et tu as les options 1, 2, 3, donc Harden, Embiid et Maxey, qui sont bons chacun leur tour par intermittence, en quelque sorte. Donc forcément, tu as un début de saison un peu dégueulasse là-dessus. Mais évidemment que si on a, pendant 82 matchs, Tobias Harris à son meilleur niveau, ça change déjà la donne parce que c'est un très bon joueur de catch. Après, moi, je l'aurais bien imaginé, d'ailleurs, quand il n'est pas en confiance comme ça, jouer un peu plus en seconde unit pour avoir un peu plus le ballon dans les mains. Il n'est pas élite ballon en main, mais il sait faire des choses. Il est intéressant aussi là-dessus. Et voilà. Juste sur Shaq Milton, par contre, je pense que tu as juste les souvenirs des débuts de Shaq Milton, parce que moi, j'en voulais plus dans le roster carrément. Je suis très content que D'Anthony Melton soit arrivé et il commence, c'était un des premiers, justement, des arrivés à commencer à montrer quelque chose, justement, Melton, contrairement pour l'instant à House ou à Tucker.
Bah ouais, bah j'ai peut-être un souvenir de Shake Milton erroné. C'est
possible, en fait, hein. il a l'arme du pull-up, mais on va dire que ça a marché pendant 2-3 mois sur une période un peu folle, et que depuis, c'est l'arme du pull-up, mais juste parce qu'il arrive à pull-up, mais il n'en met pas beaucoup, en fait.
Ouais, mais tu vois, sur ce manque d'apport du banc en termes de scoring, tu te dis, bon, il t'apporte plus de points que Matty Stiebel. Hein. Ça, c'est un fait.
Il y a beaucoup de monde à qui ça arrive.
Mais,
ça.
Ouais. Mais en gros, pourquoi j'aurais aimé que Shake Milton soit plus là? Je sais qu'on fait peut-être un peu long sur les Sixers, mais juste, pour moi, Shake Milton, il prend la place. C'est à cause de Shake Milton qu'aujourd'hui, tu profites de Isaiah Joe à OKC, en fait, en quelque sorte.
Ouais.
Ce sera la conclusion de la discussion supporter Sixers, supporter Thunder sur le Heat. Bon, vous l'avez sur les Sixers, pardon, vous l'avez compris. Bon, une équipe avec je vais reprendre les mots d'Amine, avec un talent, un niveau plancher et un talent suffisant pour que, bon, en saison régulière, ils se retrouvent dans la première partie et voire le premier quart de tableau à l'est, mais qui pose encore des questions. On verra évidemment au fur et à mesure, même si on a entendu les doutes autour de l'adaptation, notamment du côté du coaching staff de Philadelphie. Enchaînons donc avec un peu d'optimisme. Alors, en tout cas, sur ces premiers matchs, on va parler des surprises de ce début de saison. Vous les avez tous vus, a priori, tous et toutes, évidemment. Les Spurs et le Jazz, qui sont des équipes qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là. Donc, le Jazz est en 6-2, les Spurs sont en 5-2, 3 et 4e respectivement à l'Ouest. Donc, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Deux équipes au profil diamétralement opposé, finalement. Constant, je vais te lancer d'abord. Sur lequel tu veux commencer? Vas-y, je te laisse le choix. Spurs, Jazz, qu'est-ce qu'on pense de ce début de saison qui, effectivement, devrait retrouver la norme quand même assez rapidement par rapport à ce qu'on disait en intro?
Les Spurs, parce que je me suis tellement foutu de leur gueule durant cet été que là, ils me font mentir. Les Spurs, en fait, ils appliquent un principe qui est quand même fondamental dans la NBA 2022 et qui est tout simple pour gagner des matchs, c'est ils perdent peu de ballons et ils rentrent leur tir à 3 points. Globalement, c'est limite la recette miracle pour gagner des matchs NBA en 2022, c'est que si tu perds un minimum de... Déjà, si tu mets tes 3 points, tu restes dans le match globalement quoi qu'il arrive, et si tu limites tes turnovers, tu peux le gagner. Et si tu cumules les deux, t'es quasiment imbattable, en fait. Sans même parler de pourcentage de lancer et de défense, et tu remplis ces deux critères-là, tu peux quasiment battre n'importe qui. Les Spurs me mettent vraiment sur le cul, c'est le cas de le dire, parce que je m'attendais pas du tout à ce niveau de jeu-là. Tu peux en témoigner face aux Bulls, c'est quand même un sacré performance qu'ils ont sorti. Dans le clutch, ça tremble pas.
Ils sont sérieux, ils sont rigoureux, comme tu disais.
Tout à fait, c'est du pop dans le texte. Hein. J'ai sous-estimé ce qu'a réussi à faire Greg Popovich. Après, il faut quand même parler du niveau de certains... Keldon Johnson, moi qui est un joueur que j'adore, le début de saison de Keldon Johnson est assez exceptionnel. Doug McDermott est quand même bien utile et fait quand même bien chier, excusez-moi l'expression, mais fait quand même embête beaucoup de défenses NBA à jouer off-ball et met souvent ses tirs. Josh Richardson, depuis quand Josh Richardson évolue à ce niveau? En fait, je pense que s'il avait évolué à ce niveau, jamais les Celtics l'auraient tradé, hein, ils l'auraient gardé. Hein. Mais même Trey Jones, là il y a la blessure de Beasley qui va peut-être les handicaper un petit peu, mais même sur le backcourt c'est très solide, ça commet peu d'erreurs, ça suit le peu de système qu'il y a entre guillemets, ou en tout cas dans le sens où le playbook a été simplifié, ça court, globalement ça court dans tous les sens. Et ouais, les Spurs, ça joue crânement leur chance. Alors peut-être qu'après il y a un moment aussi où les adversaires vont commencer à les prendre un peu plus au sérieux, du coup l'effet de surprise sera passé. Mais pour l'instant, même Jakob Poeltl qui remplit pleinement son rôle aussi, que ce soit défensivement comme offensivement, il apporte pas mal de bonnes choses. Donc ouais, le début de saison des Spurs est bien plus surprenant pour moi que celui du Jazz. Celui du Jazz, tu peux l'expliquer par la qualité du roster. Celui des Spurs, vraiment, je me dis, mais comment ils ont réussi à battre cette équipe, quoi. Ils ont battu 2 fois les Wolves.
Ouais, Amine, comme le disait Constant, bon, c'est la surprise, la plus grande surprise. C'est vrai qu'on avait mis beaucoup de doutes, notamment quant à la création offensive, qui allait porter la balle du côté des Spurs. Ils compensent par une rigueur, par une application d'un playbook simplifié, comme tu l'as dit, mais très efficace, et évidemment une adresse qui est quand même très très haute. Hein. Ils mettent 39% de leur tir à 3 points. Bon, ils ont des bons shooters aussi sur le papier, donc bon, ça rentre, tant mieux pour eux. On va glisser un mot sur les Spurs. Effectivement, ça risque de rentrer dans le rang tout de même au fur et à mesure quand la saison va se lisser.
Oui, bah, Constant a bien tout dit. Il a précisé à la fin Poeltl, qui est quand même très important de par la protection de cercle et sa présence très importante au rebond, parce que c'est une équipe qui n'est pas si mauvaise que ça au rebond aussi. Et je voudrais juste citer parmi tous les joueurs qu'a cité Constant, il a oublié Devin Vassell, et on le citera pour faire plaisir en plus à Alan qui adore ce joueur.
Qui a joué moins de matchs, hein, du coup.
Qui a joué moins de matchs, mais les débuts étaient super, hein, quand même, avec Vassell. Et oui, donc en fait, la seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Pop s'est tanké, en fait ? Est-ce que Pop
a vraiment envie de ça à son c'est âge ça. Aussi
C'est ça.
Il est trop vieux pour ses conneries, hein, pour faire une référence, mais.
Non, mais c'est ça, mais c'est ce que pour reprendre un peu ce que vous dites, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que quand on a une jeune équipe qui, je pense, n'a pas de joueurs assez bons, ou en tout cas assez affirmés au sein de la NBA pour pouvoir affirmer leur ego face à Greg Popovich, il a une armée de talents à sa disposition qui vont écouter ce qu'il a à dire, et finalement il joue un basket scolaire, mais bougrement efficace, comme l'a dit Constant. Et effectivement, en début de saison, là, on a beaucoup d'équipes qui se rôdent, que ce soit par des changements, quand on a cité les Wolves, ce type de joueurs-là, ou d'équipes qui sont encore un peu en dilettante, qui ne les prennent pas forcément au sérieux. Bah, eux, ils sont sérieux, donc en début de saison, tu gagnes des matchs, même si ça finira par s'équilibrer. Donc, parlons de l'autre équipe qui, qui est moins surprenante, parce que finalement, en termes de joueurs, ils sont plus affirmés en NBA. Voilà. Contrairement à ce que je disais au niveau des Spurs, les joueurs du Jazz, on en connaît beaucoup. Pour l'instant, ils gagnent des matchs, peut-être parce qu'il y en a qui veulent se montrer également. Est-ce que le Jazz ressemblera à ça en fin de saison par rapport à ce qu'on disait en intro? C'est peu probable également. Donc, Amine, bon, ce Jazz, ils se font plaisir, quoi, finalement, pour ce début de saison.
Ouais, puis c'est finalement la meilleure équipe pour la question qu'on a posée aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est presque évident que non, en fait, qu'on ne peut pas tirer de conclusion sur ce début de saison. Pas parce qu'elle n'a pas le niveau pour faire une saison. Bon, là, ils sont sur régime total, en fait. Mais pas pour ne pas faire une bonne saison avec cet effectif actuel. Mais en revanche, on sait très bien que ce n'est pas l'objectif du Jazz, que ça rêve en grand de Victor Wembanyama, et que y a très peu de chances qu'effectivement, il n'y ait pas beaucoup de mouvements. Même bien avant la trade deadline, si ça se trouve, hein. Là actuellement, c'est justement montrer votre valeur et dès qu'il y aura une équipe qui me rendra à l'hameçon, bah, il y a des joueurs comme Conley, comme Malik Clarkson. Beasley, comme Clarkson, comme tout ça, c'est des joueurs qui peuvent être utiles dans des bonnes rotations NBA. Donc je pense que ça trouvera preneur quand il faudra.
Est-ce que Constant, tu veux ajouter quelque chose sur le Jazz, ou est-ce qu'on on va vers la fin avec les équipes qu'on n'a pas encore citées, mais qui vont beaucoup faire parler?
Non, bah, si la saison s'arrêtait maintenant, Willardy serait coach of the year quasi à l'unanimité déjà. Ça, c'est pour les fans des Celtics. Non, moi, la différence notable, c'est que, bon, déjà, Danny Henn, je pense que là, à chaque fois qu'il voit une victoire du Jazz, il est en mode, mais les gars, qu'est-ce que vous foutez? Putain, c'est pas possible. Et, il tape les Grizzlies deux fois de suite, c'est incroyable. Bon, après, il profite quand même largement des largesses défensives des Grizzlies, parce que la défense de Memphis sur ce début de saison, c'est une catastrophe. Je crois qu'ils ont le pire defensive rating.
C'est ça, je voulais le vérifier en même temps, je te le confirme. Ils sont 30e derrière les Nets et les Pistons.
Ils sont à quoi, 119 de defensive rating?
119.5.
119.
Ils ont un gros problème au poste 4 en l'absence de Jaren Jackson.
Mais ouais, bah t'as l'impression, en fait, quand tu regardes Utah, c'est que chaque fois qu'ils jouent un match, t'as un joueur de l'effectif qui a un revenge game, en fait.
C'est exactement ça.
Quasiment ça à chaque fois. Donc ouais, il se ramène motivé, et enfin, je sais bien que l'objectif du Jazz, c'est de tanker un maximum, mais je peux pas m'empêcher, en tant que fan NBA, de me dire, ah, cette équipe, si jamais ils jouent une saison ensemble, jusqu'où ils peuvent aller? Tu vois, c'est vraiment, quand on avait fait le podcast sur les équipes du fond de tableau en prévue de saison, on avait dit, est-ce que potentiellement il y en a une qui peut faire exploser son over-under? Il y en a toujours une des équipes NBA qui explose son over-under de plus 10. Hein, j'ai l'impression que Utah, en plus dans une conférence ouest qui a l'air d'être ultra dense, et comme elle est ultra dense, ça va jouer à peu de win pour les standings. Je me dis que si Utah avait vraiment la volonté de poursuivre toute une saison, ils auraient peut-être pu faire quelque chose de grand. Mais on sait que Danny Ainge, lui, globalement, ce que pensent les gens, les histoires de fairy tale, lui, il s'en fiche complètement. Donc,
il a pas tout à fait le même projet, en effet.
Non, disons qu'à Noël, ça m'étonnerait même pas que l'équipe ressemble déjà plus à ça, avant bien même la trade deadline.
Mais c'est vrai que, et on va conclure là-dessus sur le Jazz, parce que le chrono tourne, mais c'est vrai qu'il y a un côté satisfaisant avec ce que tu viens de dire, le côté comme ils ont un revenge game, il y a un côté satisfaisant de voir ces joueurs qui sont en fait heureux de bien jouer, de gagner des matchs, qui ont la hargne, et c'est vrai que c'est une équipe sympa à avoir joué en ce début de saison, et c'est toujours agréable, même si, comme on vient de le dire, le répéter une nouvelle fois, a priori, ils vont finir par rentrer dans le rang, que ce soit pour une question terrain ou une question de changement d'effectif. Et donc, terminons-en pour ce podcast du jour. On va un petit peu dépasser le chrono, je pense, parce qu'il y a quelque chose à dire sur des équipes. Alors, je les ai appelées gentiment dans la trame du jour les inquiétudes, mais on pourrait peut-être aller même plus loin. Les alarmes à sonner maintenant. On a dit qu'on ne tirait pas de conclusions trop hâtives, mais il y a quand même beaucoup de signes négatifs, notamment, commençons par eux, hein, puisque ils sont sur les lèvres de tout le monde pour différentes raisons. C'est différents noms qu'on entend ici et là. Constant, on parle des Lakers. Où vas-tu pointer ton doigt ?
Ah, il y a tellement de choses à pointer le doigt. Il y a tellement de choses à pointer le doigt. Sur quoi je peux commencer ? Sur le fait que Anthony Davis avait dit mon objectif c'est de jouer 82 matchs et que cet objectif est déjà foutu. Non, mais ça, il n'y a rien de surprenant. Mais en fait, les Lakers. Peut-on tirer la sonnette d'alarme si on était un minimum réaliste sur leur niveau avant le début de saison? C'est que si tu considérais les Lakers comme une équipe en bataille pour le play-in, spot 7-8, bon, ils sont déjà en retard sur les temps de passage, mais enfin, quand tu regardes le roster des Lakers, tu n'as pas le roster d'une équipe contender. Et c'est pas en ramenant Buddy Hield et Miles Turner que tu vas en faire un roster de contender. C'est globalement, t'as une équipe qui arrive. Pour moi, c'est l'équipe qui est dans la situation la plus complexe actuellement en NBA. C'est que ils sont obligés de poursuivre avec ce qu'ils ont et ils n'ont pas la marge de manœuvre, soit pour reconstruire complètement parce que leurs picks appartiennent tous aux Pels, soit pour s'améliorer de manière drastique parce qu'ils ont que deux picks. Donc ouais, le futur des Lakers s'annonce vraiment très compliqué, que ce soit pour les années à venir ou même pour cette saison. Parce que pour l'instant, LeBron joue, mais LeBron, ces dernières saisons, il a quand même loupé pas mal de matchs. Anthony Davis loupe pas mal de matchs. Alors là, ils ont essayé de changer un peu en mettant Russell Westbrook en sixième homme. Ça a marché un match. Il s'est pas blessé. C'est, contrairement à Anthony Davis, il se blesse pas. Mais on va voir. Il a fait un bon match là en sortie de banc. Mais c'est le problème des Lakers, c'est que ça défend bien. C'est une bonne défense, les Lakers. Ils sont dans le top 5, je crois, en termes de defensive rating. Mais par contre, en attaque, ça s'est pas attaqué, quoi. C'est ça le problème. Et il y a un manque cruel de shooting et de spacing, pour le coup. Et là, bonne chance pour essayer de le colmater. Hein. C'est pas juste sur les 7 premiers matchs.
Une équipe avec LeBron James qui a le pire offensive rating de la ligue, même au bout de 6 matchs joués pour eux, c'est quand même quelque chose. Bon, Amine, Constant nous a dressé le tableau général. On l'avait tous vu. C'est vrai qu'il y avait des questions de complémentarité, de talent dans cet effectif une fois passé les trois gros noms, on va dire ça comme ça. Bon, c'est quand même, malgré tout ça, on pouvait les attendre quand même un peu plus haut, un peu plus en avance sur les temps de passage pour reciter Constant.
Oui, peut-être un petit peu plus haut maintenant. Moi, j'ai une théorie fumeuse qui s'appuie pas mal sur ce que vient de dire Constant, avec qui je suis d'accord sur quand il a parlé de Miles Turner et Buddy Hield. Je pense que effectivement, c'est pas Miles Turner et Buddy Hield à la place de Westbrook qui fait de toi un contender. Et surtout, je pense que que Rob Pelinka le sait et qu'en fait, ma théorie fumeuse, c'est que je pense que les Lakers savent que cette saison, elle est bazardée en fait. Et ils se disent plutôt que d'aller donner deux picks pour terminer sixième et pas faire grand-chose cette année. Cette année-là, on la bazarde. Je suis pas certain que LeBron soit toujours aussi motivé à l'idée de gagner à tout prix. Et je pense qu'en fait, il y a une posture qui dit on veut être ambitieux, on veut tout ça, mais j'en suis pas certain. C'est peut-être un peu fumeux comme théorie. Mais moi, j'ai l'impression que il y a pas grand monde qui veut vraiment gagner cette année à Los Angeles.
Oui, il y a l'ambition de marquer des points pour LeBron James, mais ça, c'est une autre histoire plus individuelle. Mais pour le cas Turner Hield, c'est vrai que je suis d'accord avec vous de maintenant, ça n'a plus de sens, et je pense qu'ils sont au courant. Mais la théorie revient souvent par rapport à ce qu'était ce changement d'effectif à la base, c'est-à-dire ne pas aller chercher Westbrook. Et c'est pas contre Westbrook le joueur, on en a beaucoup parlé dans des podcasts précédents, mais c'est que c'était Turner Hill plus l'argent que tu gardais, plus d'autres joueurs éventuels, notamment un Caruso que je connais bien du côté des Bulls, qui est un joueur qui leur ferait du bien d'ailleurs du côté des Lakers actuellement. Je pense que beaucoup le regrettent. Donc effectivement, ta théorie, Amine, elle me semble cohérente dans le sens où ils se sont rendus compte, ce que tout le monde avait vu avant eux, hein, malheureusement, c'est quand même une nouvelle fois à pointer du doigt du côté des Lakers. C'est difficile de pointer du doigt les joueurs. Tu as dit, peut-être, on peut dire, voilà, Anthony Davis qui se blesse. Bon, mine de rien, pour l'instant, c'est qu'un seul match. LeBron James, le Russell Westbrook, qui fait du Russell Westbrook, on le connaît. Il y a un moment donné, il faut se tourner du côté des instances dirigeantes des Lakers qui ont mal construit leur équipe, tout simplement. Elle est mal foutue et, comme tu l'as dit, Constant, les portes de sortie sont minimes, quoi. Et c'est difficile de voir. En tout cas, il n'y aura pas de sortie miracle pour cette saison. Dans quel monde les Lakers redeviennent un contender, je ne sais pas si ce monde existe. Et je ne pense pas, d'ailleurs, que ce monde existe.
Et ils vont donner un pic aux Pelicans.
Un beau pic aux Pelicans, en plus, a priori. En tout cas, comme c'est parti. Bon, on va pas faire trop long, puisqu'on dépasse assez rapidement. Et puis, il y a une dernière équipe qu'il faut qu'on évoque pour terminer ce podcast. Mais effectivement, du côté des Lakers, est-ce que ce n'est pas l'équipe... Constant, je me retourne vers toi, mais Amine, je te poserai la même question. Est-ce que c'est pas l'équipe qui est la plus inquiétante à laquelle on peut mettre un 5 d'inquiétude ou un 4,5 pour ce début de saison, même si voilà, on l'a dit, pas de conclusion définitive, mais là, le niveau d'inquiétude est quand même très élevé.
Ouais, t'as un bon 4, hein, franchement, en termes d'inquiétude, c'est-à-dire que là, je me demande s'ils vont jouer le play-in, ne serait-ce que jouer le play-in, est-ce qu'ils vont pas être hors play-in comme l'an dernier ? Parce que je vois les Kings, je me dis ça va mieux que les Lakers. Ça joue, alors ça défend pas des masses hein, globalement les Kings, mais t'as Keegan Murray qui montre de bonnes choses, t'as Kevin Werther qui montre de très bonnes choses aussi. Je me dis bon, je vois ces Kings, je me dis tu vois, il y avait cette espèce d'incertitude sur une franchise comme les Blazers par exemple. Bah eux ils font un bon début de saison.
Mentionné, mais ça se passe bien.
Alors que franchement, j'aurais pensé que les Blazers et les Lakers se seraient retrouvés à peu près dans le même range en fin de saison. Là, t'en as une qui démarre tambour battant et t'en as une qui débute plus bas que terre.
Donc, en miroir, un 5-5-1.
Voilà.
Donc, ouais, non, mais c'est vrai que pour arriver au play-in, il faut, tu as cité, bon, que les équipes devant, entre guillemets, ils doivent dépasser plusieurs équipes. Les Kings, bon, on l'a dit, les Spurs, le Jazz, qui sont des équipes surprises, mais notamment le Jazz, qui risque de pas forcément. Dropper autant de matchs que ça, et puis bon voilà, peut-être le fameux Thunder constant, mais non. Est-ce que le Thunder est moins bon que les Lakers sur la durée d'une saison régulière? C'est pas sûr, c'est pas toi qui vas me dire que c'est le cas, évidemment. Amine, toi aussi, juste rapidement sur l'inquiétude au niveau des Lakers, est-ce qu'il y a quand même un monde, allez, je vais essayer de te poser la question de manière optimiste, mais t'es pas obligé de répondre oui, est-ce qu'il y a quand même un monde où LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, ça suffit au bout d'un moment pour aller chercher le play-in quand même?
C'est difficile de répondre à cette question. J'ai l'impression que non. Maintenant, le play-in, ça va jusqu'à la 10e place, quand même. Donc,
Si.
Donc, inquiétude à 4 plutôt. Comme Constant, pas à 5. On va dire que quand même, quoi. LeBron, Anthony Davis, ne serait-ce que ça.
Ouais, peut-être l'inquiétude est moins élevée que la. Comment dire ? Que la déception par rapport à l'attente, ou en tout cas au visage affiché. Comme tu le disais un peu Constant, avant la saison, le Media Day, toujours, c'est toujours très reluisant de côté de toutes les équipes. Je pense que le contraste le plus fort, on va dire, qu'il est du côté, des Lakers. Je pense qu'on sera d'accord, là-dessus. Dernière équipe, allez, pour le bonus de fin de podcast, dernière équipe qu'on doit mentionner, même si en termes de résultats, bon, j'allais dire c'est mieux que les Lakers, c'est un match de plus. Hein. Ils ont joué un match de plus, ils l'ont gagné, ils sont à 2-5. Mais ce sont les Brooklyn Nets qui, eux aussi, cristallisaient pas mal de questions, notamment avec le retour de Ben Simmons. Je ne sais pas comment, à quel point on peut aussi évoquer le hors-terrain, mais c'est vrai que là, du côté des Nets, à peu près rien qui va dans ce bateau. Et on a appris il y a quelques heures avant de commencer à enregistrer ce podcast que Steve Nash avait été licencié. La première rumeur, celle qui est la plus insistante, à voir si elle se confirme, c'est d'aller chercher un coach qui a été suspendu par les Celtics il y a quelques semaines de ça. Donc c'est rien de très reluisant. C'est-à-dire que les signes ne sont pas terribles sur le terrain, ne sont pas terribles hors terrain. Cette fois-ci, Amine, ils sont pour toi, les Nets. Comment tu classes ton inquiétude et sur quel point tu le classes? Est-ce qu'elle est plus terrain, est-ce qu'elle est plus hors terrain? Et évidemment, c'est forcément un peu un mix des deux.
On n'a pas trop envie de parler hors terrain parce qu'on a envie de parler surtout de basket. Maintenant, quand ton président, il y a quelques jours, dit à juste titre « This is bigger than basketball » en parlant de Kyrie, et que trois jours après, s'apprête à prendre Ime Udoka comme coach pour remplacer Steve Nash, c'est-à-dire que le Comedy Club, il part de Kyrie Irving à Kevin Durant, à Joe Tsai, à Steve Nash, ils se sont mis tous ensemble pour faire ça. C'est-à-dire que c'est difficile aujourd'hui, c'est plus facile de parler basket des Lakers que de parler basket des Nets. Et ça, c'est vraiment, vraiment, ça veut vraiment dire que les Nets, ça commence à être compliqué. Je sais même pas quoi dire, en fait. Techniquement, ils ont une bien meilleure équipe, par exemple, que les Lakers, mieux construite, même si elle n'est pas parfaitement construite, elle est quand même mieux construite que les Lakers, et normalement, ça devrait le faire. Normalement, c'est même avec l'effectif actuel et tout, normalement, c'est avantage du terrain. Mais là, je sais plus, en fait. Je sais plus quoi dire de ces Nets. Ils nous font chaque jour des nouvelles blagues, en fait, voire des très mauvaises blagues, parfois.
On frôle le tragique.
Ouais, et du coup, inquiétude 5, je pense qu'il la mérite plus que les Lakers en vérité. En termes d'explosion déjà prévue de groupe, les Nets, ça se pose là.
Ouais, Constant, je relance aussi dessus, comme l'a très bien dit Amine, on n'a pas trop envie, mais on est obligé de l'évoquer, c'est quand même une actualité déjà en termes de NBA, comme tu l'avais bien cité Amine, même au-delà de ça. Bon, c'est Nets, c'est tragicomique, pour reprendre un peu des deux, Constant.
Ouais, bah disons que après la news d'Ime Udoka, je me suis amusé moi sur Twitter à mettre une photo de profil du Vosge, à me renommer en Adrian Wojnarowski, en disant de Brooklyn Nets has agreed to a deal with Josh Primo. Parce qu'on en a pas parlé quand on a mentionné les Spurs, mais je pense qu'il y a des gens qui ont cru premier degré pour montrer à quel point les Nets sont en train de partir dans un shit show absolument complet. Que ce soit sportif ou extra-sportif. On parle d'une franchise qui, il y a de ça 2 mois, quand leur meilleur joueur a dit « Soit vous me tradez, ou alors vous virez le GM et le coach. » Le proprio a répondu « Non. » Tout ça pour virer son coach au bout de 6 matchs. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point cette franchise est mal gérée pour dire non à quelque chose et le faire 2 mois et demi après. Ça montre déjà à quel point il n'y a pas de continuité dans cet effectif. Le terrain, bon, 29e defensive rating, Ben Simmons qui est blessure au genou, mais même sans blessure au genou, on est quand même très loin du niveau de Ben Simmons. C'est là où tu montres que le dos, quand même violent pour des joueurs de basket. Les propos de Kyrie Irving, j'ai même pas envie de les citer tellement c'est immonde. C'est immonde ce qu'est capable de balancer Kyrie. Voilà, les Nets, c'est... ils ont le cumul, en fait, c'est l'équipe. Si tu dois donner un bonnet d'âne à une des 30 franchises NBA sur ce début de saison, tu le donnes aux Nets directement parce que rien ne va. Rien ne va. Alors que pourtant, sur le papier, ils ont un effectif qui est même meilleur que celui de l'an dernier. Franchement, hein, avec les ajouts qu'ils peuvent avoir, Et c'est là où tu te dis que tout va très vite en NBA parce que, si KD avait fait du 41 comme moi au lieu de faire du 54, bah peut-être qu'ils auraient eu une bague, que Steve Nash serait toujours en poste et qu'il n'y aurait pas eu autant de problèmes. C'est là où tu vois que ça peut... T'as plein de paramètres qui peuvent basculer sur un micro-détail, mais ouais, en termes de... Je suis globalement du même avis Camille, ils vont remonter. Alors, avantage du terrain, peut-être pas, parce que là, ils prennent pas mal de retard, mais en termes d'extra-sportif et de décisions humaines, t'es à 0 sur 5 en termes de respect de ce que tu dis. Par contre, en termes de dichotomie entre tes actes et tes paroles, t'as un bon 10 sur 5.
Ouais, je pense que t'as cité le parallèle parfait avec le cas Primo aux Spurs, c'est-à-dire qu'on a oublié de le mentionner, parce que du côté des Spurs, la gestion a été faite comme elle doit faire, c'est-à-dire c'est très simple, il y a eu acte, ils ont eu une enquête interne probablement, ils ont décidé d'agir, ils ont viré le joueur, on n'en parle plus, on passe à autre chose et on n'a parlé que du terrain. Et du côté des Nets, comme tu l'as dit, les actes, les paroles, c'est tellement confus, c'est tellement voilà, on arrive limite plus à suivre que on ne parle que de ça. Et donc, je trouve que c'est le parallèle qui conclut bien les soucis hors terrain. Et après, sur le terrain, vous l'avez dit, malgré tout, voilà, quand on les voit de temps en temps, bah, KD, même si c'est plus le KD prime en termes de séparation, etc., on l'a beaucoup dit, c'est toujours très fort. Kyrie Irving, une fois qu'on lui met un ballon, une fois qu'il, même si c'est pas la bonne expression, shut up and dribble, bah voilà, quand il se met à dribbler, il y a quand même des actions magnifiques. Bon voilà, ils ont un niveau de talent basket. On aimerait parler plus du basket, malheureusement, on se retrouve avec le reste. Donc effectivement, peut-être le carton rouge de ce début de saison, il est pour les Nets. Et puis écoutez, on va suivre le cas du coach parce qu'il y a la rumeur Udoka qui est la plus insistante, qui a priori devait arriver, mais c'est pas confirmé à l'heure où on enregistre. Du coup, on va rester un petit peu plus prudent. On arrive au bout du podcast, mais j'ai pas envie de finir sur ce cas-là. Donc, on a parlé du bonnet d'âne. À qui vous décernez la médaille du meilleur début de saison avec tous les paramètres pris en compte sur les attentes au début? Est-ce que vous préférez des surprises? Est-ce que vous préférez le rouleau compresseur Bucks? Quelle est l'équipe qui vous fait le plus plaisir en ce début de saison? Amine, quelle équipe?
Moi, c'est les Cavs. Mais je crois que je suis en train de tomber un petit peu amoureux de cette équipe parce que peut-être tout à l'heure, j'ai parlé de mon amour pour Donovan Mitchell, mais j'ai beaucoup d'amour pour Garland aussi, j'ai beaucoup d'amour pour Mobley. C'est vraiment une équipe où il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien. Et j'aime beaucoup leur début de saison et voilà, je vais les donner aux Cavs là.
Ouais, bah pour les Cavs, côté Amine, Constant, la tienne peut-être?
si je donne une médaille, je la donne au Jazz. Si je donne un char d'assaut, je le donne aux Bucks.
C'est plutôt bien dit, j'aime beaucoup la formule. Bah, écoutez, moi je ne vais pas faire dans l'originalité, du coup, je suis comme Amine, c'est les Cavs qui pour l'instant m'ont fait le plus gros effet. C'est-à-dire qu'ils sont kiffants, il y a différents joueurs, ils sont plutôt. Ils attirent aussi là, une certaine sympathie parce c'est que, voilà, comme tu l'as dit, Constant aussi, on sent qu'ils ont faim ensemble en plus. Même un Caris LeVert qui, doit lui être bien content de se retrouver deuxième option offensive quand il manque un des deux, ça lui fait plaisir. Mais pour le coup, il déborde pas et pour l'instant, ça lui réussit. Donc voilà, le petite médaille pour les Cavs en ce début de saison. Mais comme on le disait en introduction, difficile de tirer des conclusions terrain à partir de 6-7 matchs. On va se donner rendez-vous de toute façon toutes les semaines avec Nick Hebdo pour parler de ça. Donc on fera un point régulier pour voir pour qui cette saison se dessine pour le mieux. Messieurs, je vais faire évidemment le dernier appel. Merci d'avoir été avec nous. Mais pour tous ceux qui nous ont écoutés, vous pouvez nous retrouver de partout sur les applis de podcast, les plateformes que vous préférez, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, comme vous le souhaitez, toujours sur Twitter. Bien sûr, on remercie Gabin, notre community manager, et Ben qui, mine de rien, est modeste, mais un sacré travail également sur les différents comptes des réseaux sociaux, sur YouTube, bien sûr, si vous voulez voir la vidéo. Et puis, on se retrouve rapidement, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour un nouvel épisode du podcast de Kebdo. Merci, messieurs.
Salut.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.